Laudetur Jesus Christus.
Un modèle d'écoute et de dialogue pour nos familles d'aujourd'hui. Lors de son dernier Angélus de l'année, le pape François est revenu hier sur la Sainte Famille de Nazareth, compte rendu détaillé au début de ce journal. La Corée du Sud, endeuillée par la pire catastrophe aérienne de son histoire, après qu'un avion s'est écrasé à l'atterrissage sur un aéroport du sud du pays hier matin. Seules deux personnes sont rescapées parmi les 181 passagers. Dans ce journal également, nous dresserons le bilan d'une année particulièrement mouvementée et éprouvante pour les Libanais, entre la guerre avec Israël et les incertitudes politiques et économiques. Et puis gros plan ce matin dans notre dossier sur Marc Chagall et son apport spirituel. Dans le cadre du jubilé, son célèbre tableau « La crucifixion blanche » est exceptionnellement exposé à Rome. Notre invitée ce matin, Mélina de Courciste, historienne de l'art et théologienne.
Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
Bonjour, la Sainte Famille de Nazareth, modèle de dialogue et d'écoute hier depuis la fenêtre des appartements pontificaux dominant la place Saint-Pierre. Le pape François est revenu sur l'évangile de Luc qui relate l'épisode de Marie et de Joseph qui retrouvent Jésus dans le temple après l'avoir cherché pendant 3 jours. Le pape qui a invité les fidèles à méditer sur la Sainte Famille de Nazareth et à prendre d'elle l'écoute mutuelle. Jean-Charles Puzolu.
Le pape François a focalisé son exhortation sur l'évangile de la liturgie du jour. Compte l'épisode de Jésus, alors âgé de 12 ans, perdu par Marie et Joseph et retrouvé dans le temple en train de discuter avec les docteurs. S'appuyant sur ce récit, l'évêque de Rome a souligné que l'évangéliste Luc révèle l'état d'esprit de Marie, mais aussi de Jésus. Pour François, c'est l'expérience d'une famille qui alterne les moments calmes et les moments dramatiques. On dirait l'histoire d'une crise familiale moderne, d'un adolescent difficile et de deux parents qui n'arrivent pas à le comprendre. Cependant, François a expliqué que la Sainte Famille de Nazareth est un modèle parce que c'est une famille qui dialogue, qui parle. Et le dialogue est l'élément le plus important pour une famille, car une famille qui ne communique pas ne peut pas être heureuse, a indiqué le Saint-Père.
Il dialogue est un élément importante per una famiglia. Una famiglia che non comunica non può essere una famiglia felice.
Écoutez, a poursuivi François, c'est donner de l'importance à l'autre, lui reconnaître le droit d'exister et de penser par lui-même. Et les enfants en ont besoin. Et un moment privilégié de dialogue et d'écoute en famille est par exemple celui des repas, a-t-il souligné. Au terme de sa catéchèse et avant la dernière prière mariale de l'Angélus de l'année, le souverain pontife a invité à réfléchir sur la sainteté de la famille de Jésus, Marie et Joseph, et à apprendre d'eux l'écoute réciproque.
Jean-Charles Puzolu. Et à l'issue de cet Angélus, le pape a invité à prier pour toutes les familles victimes de la guerre à travers le monde, que ce soit en Ukraine, en Israël, en Palestine, au Soudan ou encore au Nord Kivu. Après la basilique Saint-Pierre, au cours de la nuit de Noël, une autre porte sainte a été ouverte hier à Rome, celle de la basilique Saint-Jean de Latran, la cathédrale du diocèse de Rome. Et c'est le cardinal Baldo Reina, l'archiprêtre de la basilique et vicaire du pape pour le diocèse, qui a présidé la cérémonie. Il a invité les fidèles présents à être, je cite, des pèlerins de l'espérance, conformément au thème de cette année jubilaire. Franchir la porte sainte, c'est être accueilli dans les bras du Père en se laissant réconcilier par son étreinte. Plus d'informations à retrouver sur vaticannews.va. Hier, l'année jubilaire a donc été ouverte dans tous les diocèses du monde entier. Depuis bientôt une semaine, des pèlerins, eux, viennent des quatre coins du monde et se pressent sous la porte sainte de la basilique Saint-Pierre au Vatican. Certains viennent en famille, comme Pierre-Olivier, en pèlerinage à Rome avec ses enfants.
C'est un pèlerinage familial qu'on a prévu depuis de longs mois. On avait réservé chez des sœurs qu'on connaît et vraiment avec la volonté de franchir la porte sainte dans le temps de Noël. On s'est préparé en lisant la bulle d'indiction du jubilé du pape François. Et puis avec les célébrations de Noël, voilà, on pensait qu'on aurait le cœur ouvert pour passer la porte sainte en ce moment. On s'est un peu mobilisé en famille, voilà, pour parce que c'est vrai que c'est très rapide, hein. On est dans le flux des pèlerins, on est étonné du nombre de pèlerins. Et donc on a eu un moment de recueillement. Et je pense que ce qui nous a permis d'asseoir cette démarche, c'est de tout de suite la messe après. On a eu la messe dans la basilique. Et là, ça nous a permis vraiment de nous poser. Certains des enfants se sont confessés aussi dans la basilique. Voilà, c'est un peu un tout, une démarche du cœur en fait, hein. Là, c'est vraiment une grâce familiale parce qu'on a 10 enfants. Alors, ce qu'on va retenir, c'est cette cohésion familiale. Et en même temps, on a beaucoup prié pour l'Église, pour le pape François, pour des intentions qui nous étaient confiées.
Et voilà des propos recueillis par Jean-Benoît Harel. La Corée du Sud endeuillée hier suite au crash d'un avion de ligne lors de son atterrissage à l'aéroport de Muan au sud du pays. L'avion était en provenance de Bangkok lorsqu'il s'est écrasé sur la piste. Le bilan s'élève à 179 morts. Seuls deux membres d'équipage ont survécu. Cette catastrophe aérienne est la plus meurtrière sur le sol coréen de l'histoire du pays. À Séoul, Célio Foretti.
Il était 9h du matin lorsque le Boeing 737 de la compagnie Jeju Air en provenance de Thaïlande s'est écrasé sur la piste de l'aéroport de Muan en Corée du Sud. Suite à un dysfonctionnement du train d'atterrissage, vraisemblablement dû à une collision avec un oiseau, l'appareil a glissé sur le tarmac jusqu'à s'écraser, tuant 179 des 181 personnes à bord. Après une journée à tenter de retrouver et identifier les victimes, l'effroi laisse place à l'enquête sur les circonstances de cet accident. Si un oiseau a bel et bien percuté l'appareil lors de son atterrissage, les enquêteurs souhaitent désormais savoir si cela ne s'est pas ajouté à un défaut technique déjà présent sur l'avion. La boîte noire de l'appareil, contenant toutes les informations sur l'état de l'avion ainsi que les communications des pilotes, a été retrouvée endommagée. Son état pourrait retarder d'au moins 2 mois l'enquête des autorités. D'ici là, le président sud-coréen par intérim a annoncé une période de deuil d'une semaine après ce qu'il qualifie de désastre national. C'est le Fioretti, Séoul, Radio Vatican.
Et la Corée du Sud y lançait une inspection complète de ses Boeing 737-800 après ce crash meurtrier. Hier, le pape, après l'Angélus, a tourné ses prières et pensées vers les victimes sud-coréennes de cette catastrophe. Un autre deuil national a été décrété aux États-Unis. Il aura lieu le 9 janvier en hommage à l'ancien président Jimmy Carter, décédé hier à l'âge de 100 ans. Président de 1977 à 1981, son nom restera notamment associé aux accords de Camp David en 1978, où l'Égypte fut le premier pays arabe à normaliser ses relations avec Israël, ou encore le traité SALT II de non-prolifération signé un an plus tard avec l'Union soviétique de Brejnev. Jimmy Carter doit sa popularité après son mandat et son engagement notamment dans de nombreuses médiations. Il avait reçu le prix Nobel de la paix en 2002 de confession baptiste. Jimmy Carter fut aussi le premier président américain à inviter un pape à la Maison Blanche. C'était Jean-Paul II en 1979. L'Amérique et le monde ont perdu un dirigeant, un homme d'État et un humanitaire extraordinaire, a réagi Joe Biden. Et puis la Chine exprime ce matin ses profondes condoléances suite à la mort du président défunt. L'organisation d'élections en Syrie pourrait prendre 4 années, selon le nouveau dirigeant Ahmad al-Sharaa, dans un entretien à la chaîne saoudienne Al Arabiya. Le leader du groupe islamiste HTC a souligné aussi que la constitution du pays serait à réécrire. Le nouveau leader syrien a aussi demandé une levée des sanctions internationales qui pèsent sur son pays. En ces derniers jours de l'année, nous partons au Liban ce matin pour regarder dans le rétroviseur. 2024 aura été une année particulièrement éprouvante pour des millions de Libanais. Entre la guerre avec Israël, la poursuite de l'instabilité politique et de la crise économique, sans compter sur les bouleversements géopolitiques de la région et la chute de Bachar al-Assad en Syrie. Retour sur cette année avec notre correspondant à Beyrouth, Paul Ralifé.
4 000 morts, 17 000 blessés, 360 000 unités de logements entièrement détruites ou endommagées, des dégâts et des pertes estimés à plus de 7 milliards de dollars. La guerre entre le Hezbollah et Israël, qui a duré toute l'année 2024, s'est transformée à partir de la mi-septembre en un conflit ouvert d'une violence inédite. Un conflit qui a culminé avec l'assassinat par les Israéliens du leader historique du Hezbollah, Hassan Nasrallah, le 27 septembre. Malgré le cessez-le-feu proclamé le 27 novembre, les violations israéliennes se poursuivent d'une manière quotidienne, laissant planer le doute quant à la solidité de la trêve. À cette incertitude s'ajoute l'inquiétude soulevée par les changements géopolitiques engendrés par la chute du régime syrien. Les Libanais, qui accueillent chez eux 2 millions de réfugiés syriens, craignent que la Syrie entre dans une période d'instabilité qui aurait forcément des répercussions négatives sur leur pays. Tous ces développements défavorables interviennent alors que le Liban ne s'est pas encore relevé de l'effondrement économique et financier survenu en 2019. La situation politique n'est pas plus encourageante. Le Liban est toujours sans président depuis octobre 2022 et les différents partis ne sont pas encore parvenus à un accord sur un candidat consensuel moins de 2 semaines avant la séance électorale prévue au Parlement le 9 janvier. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
Un mot de Mayotte où est arrivé ce matin le nouveau Premier ministre français François Bayrou, accompagné de 5 ministres. L'île de l'océan Indien, département français le plus pauvre, a été ravagée il y a 2 semaines par un cyclone. Au programme notamment la visite d'une usine de dessalement ou encore d'un hôpital de campagne. Hier, l'année jubilaire s'est donc étendue aux églises particulières. À Rome, où le jubilé a déjà commencé, la ville livre aux pèlerins, les premiers pèlerins, des itinéraires où la foi et l'art s'entremêlent. Ainsi, le dicastère pour l'évangélisation propose aux fidèles arpentant la ville éternelle une série d'expositions d'art gratuites dans le cadre du festival Jubilé et Culture. Parmi elles, la mystérieuse et profonde Crucifixion blanche, peinte en 1938 par le peintre d'origine juive russe Marc Chagall. Un tableau très cher au pape François, qui est venu le contempler en personne le 8 décembre dernier. Il est exposé au Palazzo Cipolla, dans le centre de Rome, exceptionnellement jusqu'au 27 janvier. L'historienne de l'art et théologienne Mélina de Courcy, enseignante au Collège des Bernardins à Paris, nous décode ce matin les signes d'espérance et d'unité religieuse qui émanent de cette œuvre d'art spirituel.
Il est peintre de l'espérance parce que il ne nie pas nos obscurités, il ne nie pas les impasses humaines. Il a peint beaucoup de tableaux de guerre, de persécution, d'exode. Et toujours au milieu de ces tableaux, il y a la couleur, il y a la lumière. Et bien souvent dans ces tableaux souffrants, il y a cette image du crucifié. Ici, dans la Crucifixion blanche, il est traversé par une diagonale de lumière primordiale qui vient du ciel, qui pourtant lui est tout noir, et qui rejoint la neige où se passe ce massacre. Et c'est pour manière de dire que le Christ est au milieu de cela, mais qu'il y a une espérance qui nous fait lever les yeux vers le haut du tableau, avec ce grand ray de lumière blanc qui traverse la nuit et qui nous donne l'espérance vers l'au-delà, que quelque chose de meilleur existe, qu'il y a une transcendance, et que l'œuvre de Chagall, elle est là justement pour témoigner de cette transcendance, comme le font les prophètes.
Quelle lecture artistique et spirituelle faire de ce tableau, la Crucifixion blanche ?
Eh bien, par rapport à cette Crucifixion blanche, donc, qui est conservée à Chicago, qui est peinte en 1938 et qui est exceptionnellement exposée à Rome, ce tableau, de la part de Chagall, c'est un cri de souffrance. Un cri de souffrance pour les Juifs pourchassés, les Juifs exterminés, les Juifs contraints à la fuite. Vous savez qu'il le peint en 1938, que la famille sinistre nuit de cristal du 3 novembre 1938 a eu lieu en Allemagne et que le ciel se couvre sur l'Europe, exactement comme en témoigne l'horizon très noir de ce tableau qui s'appelle la Crucifixion blanche, mais qui offre un horizon bouché, très noir, rempli de fumée, de la destruction, de la désolation et de la mort. Et donc, cette Crucifixion blanche, c'est pour dire que Chagall met en scène un tourbillon de signes où il y a un tumulte mortifère qui est autour d'un homme juif, Jésus, crucifié, les bras en croix, les yeux fermés, au milieu d'un déchaînement de violence et de mort. Donc tout ça, ce sont des indications pour nous dire que avec le Christ, je suis crucifié sur le chevalet. Donc lui-même, sachant que pour les chrétiens, le Christ est celui qui fait le pont entre le ciel et la terre, lui-même s'identifie à ce personnage du Christ. Il souffre avec son peuple, alors que lui est en exil aux États-Unis et alors que son peuple est en proie à l'extermination.
Quelle forme de dialogue judéo-chrétien émanerait finalement de ce tableau ?
Alors ça, c'est la grande question. Vous savez que Chagall, c'est l'artiste consensuel par excellence, celui que tout le monde aime. Il y a comme une vision un peu prophétique. Ce que l'on peut comprendre à travers cette lumière blanche qu'il utilise dans ce tableau, c'est que cette lumière blanche, dans la légende hassidique, elle est associée à la lumière primordiale. Pour nous, les chrétiens, ce que l'on peut voir en regardant ce tableau, c'est que ce mystère du Christ couvre d'avance, d'une nappe de lumière, toute l'histoire à venir. Pour Chagall, la Bible est quelque chose de réel. Il l'a lu enfant, il l'a lu adulte, et pour lui, elle est le plus grand réservoir de poésie du monde, et aussi d'images.
Comment relier cette œuvre à la prophétie chrétienne du salut ?
Je crois que c'est le moyen pour nous de comprendre. Dieu, pour nous sauver, passe par l'histoire. À un moment donné, Dieu est entré dans l'histoire des hommes, et il le fait non pas en prenant la place du héros supérieur et inaccessible, mais en prenant la place du persécuté. Et c'est là où je comprends pourquoi le pape François est si attaché à cette œuvre de la Crucifixion blanche de Chagall, parce que c'est l'image du Christ qui prend la place du persécuté au milieu des persécutés, qui se fait pauvre au milieu des pauvres, humble au milieu des humbles, au milieu de ceux qui n'ont plus rien et qui sont nus, et qui vient partager cette souffrance. Et ça, c'est le plus beau message que Dieu puisse donner aux hommes, parce que c'est un message d'espérance.
Voilà, interrogée par Delphine Allaire, l'historienne de l'art Mélina de Courcy, professeure au Collège des Bernardins à Paris, était ce matin l'invitée de Radio Vatican. C'est avec Marc Chagall que s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. Prochain rendez-vous de l'information sur nos ondes, ce sera à 13h. Excellente journée à tous.